Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes tout autant passionnée de True Crime. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour le dernier épisode officiel de la Spooky Season de CSC. Oui, demain, on a un autre épisode qui s'en vient pour l'Halloween, mais c'est une berceuse dans le noir. C'est vraiment aujourd'hui le dernier épisode en format classique de Crime et Cocktail pour la Spooky Season, et merci, ça a été vraiment une belle spooky season et je suis vraiment désolée, je pense que vous l'entendez en ce moment. Je me remets d'une grosse grippe. J'ai vraiment attendu à la dernière minute pour record, mais je voulais pas vous laisser sans épisode aujourd'hui. Je voulais absolument que vous ayez votre épisode. Surtout que c'est un épisode qui est vraiment, vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé le bâtir. Donc, soyez patients avec moi et ma voix d'enrhumée. Et surtout, lavez-vous les mains souvent parce que ça n'a vraiment pas été facile, cette grippe-là. Ça fait longtemps qu'une grippe m'a autant ramassée. Moi et mon chum, on s'en remet encore, là. Fait que lavez-vous les mains, faites attention à vous. On va passer au moment what the fuck de la semaine. Mon moment what the fuck de la semaine m'est littéralement arrivé aujourd'hui. Je me demandais qu'est-ce que j'allais prendre comme moment what the fuck pour cette semaine, puis la vie s'est dit ben tiens, en voici un. Je venais de finir de faire du ménage dans une maison, puis je suis sortie, puis j'ai réalisé, alors que je suis à 40 minutes de chez moi, que j'ai un flat. Moi qui viens juste de faire changer mes pneus en plus pour l'hiver. Là, je me disais, ah mon Dieu, pourquoi est-ce que, tu sais, le flat, ça ne tentait pas d'apparaître quand que je vais être arrivée chez nous, que je vais pouvoir attendre CAA, qui peut arriver des fois 2 heures plus tard quand je vais être chez moi. J'avais tellement de choses à faire, fallait que je record pour que l'épisode sorte, puis que j'édite par après. Je suis enrhumée, tout va mal, je n'étais pas contente. En bon québécois, j'étais en tabarnak. Finalement, j'ai appelé CAA. Pour ceux qui ne vivent pas au Québec, c'est quelque chose qu'on a ici, qu'on peut payer pour... on paye à chaque année. Puis, on a le droit à 3 services, 3 remorquages gratuits, 3 dépannages gratuits, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai ça parce que j'ai vraiment une bad luck avec les autos. Tout le monde autour de moi le savent et le voit. Pour moi, CAA, c'est vraiment rentable. C'est quelque chose que je dois absolument avoir. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Puis, il est venu finalement. On pense juste que c'est peut-être quelque chose par rapport avec ma valve ou peut-être que le rim a mal été collé sur mon auto, sur mon pneu, je veux dire. J'ai l'air de savoir de quoi je parle, absolument pas. C'est que mon beau-père est mécanicien, mais tu sais, ça sert. Mon beau-père est mécanicien, mais il habite à 2 heures de chez moi. J'espère que l'auto va être correct demain, qu'il n'y aura pas de encore un flat de dessus à suivre. On verra. Ce qui est important, c'est que j'ai pu revenir, j'ai pu record l'épisode et je vais l'éditer pour qu'il soit prêt pour vous demain. J'espère aussi que ma peau morte dans mon visage, parce que je me suis tellement mouchée et elle était à vif, va se replacer, se régénérer pour que je puisse me mettre du maquillage sans avoir l'air d'avoir un cake face ou qu'on voit toute ma peau morte. Parce qu'évidemment, c'est l'Halloween en fin de semaine. J'ai vraiment un costume super cool de prévu. Je vais tout vous montrer ça sur Instagram. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, voici une autre raison de nous suivre si vous voulez voir les costumes le fun de moi pis Jess d'Halloween en fin de semaine. Parlant d'Halloween, parlant de party d'Halloween, ça rime aussi avec cocktail ou mocktail, tout dépendant si ça vous tente de boire ou pas, si vous buvez ou pas, ou si c'est vous le conducteur désigné, bien, ça va être un mocktail pour vous. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu le post qu'on a fait sur les trucs et astuces pour faire des twists spooky à vos cocktails pour les rendre thématiques avec l'Halloween. Puis pour l'épisode d'aujourd'hui, ben j'ai décidé de faire un cocktail inspiré d'une de nos fameuses twists spooky. Donc envoyez sur Instagram, va nous suivre. Pendant que vous êtes là, allez donc donner une note de 5 étoiles à Apple Podcast, Spotify, peu importe la plateforme où nous écoutez. J'ai déparlé en ce moment, mais bon, pas grave, on passe à autre chose. Vous avez aucune idée comment ça nous aide. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai fini d'être fatigante. On continue avec le cocktail. On boit aujourd'hui un pumpkin Fizz. Ça a tellement un petit nom. En tout cas, je sais pas, j'aime ça. Étape numéro 1, vous avez besoin d'une orange, un couteau. Vous allez découper la peau de l'orange et vous allez sortir vos talents d'artiste pour faire une petite phase de citrouille dans la peau d'orange. Ensuite, vous allez insérer un brin de romarin au sommet pour créer un genre de trépied stable que vous allez utiliser pour votre verre. Parlant de verre, prenez-en un. Versez environ 1 cm d'eau au fond, puis ensuite de ça, mettez-le au congélateur pour que ça gèle, environ 2 heures. Donc, vous avez votre peau d'orange avec une face de citrouille, avec le brin de romarin qui sert à un trépied. Vous mettez ça dans le verre avec 1 cm d'eau, puis vous mettez ça au congélateur. Vous oubliez ça pendant 2 heures. Revenez dans 2 heures, Une fois glacé, vous ajoutez soit, là c'est vraiment à votre guise, vous pouvez ajouter soit un demi ou un once de sirop de cidre ou remplir le verre à moitié avec le cidre de votre choix, votre cidre préféré. Nous, à Crème et Cocktail, on aime beaucoup ceux de cidre Lacroix, mais vous pouvez vraiment prendre celui qui vous tente, choisir l'option qui vous tente. Ensuite de ça, vous pouvez compléter le cocktail soit avec de l'eau pétillante ou, si tu as envie d'un petit peu plus de luxe, avec du champagne ou si tu veux du luxe mais que tu n'as pas envie de te ruiner à acheter du champagne, ben tu peux compléter ça avec du Prosecco. That's it, that's all, basketball. Avec tout ça, tu obtiens un cocktail parfait pour l'automne. Il y a des notes fraîches et aromatiques, mais aussi un peu de petit spooky avec ta petite face de citrouille dans ton verre. J'aime vraiment ça parce que je trouve que oui, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Ça prend quand même le temps que l'eau gèle, un bon 2 heures, mais c'est assez simple. Ça se fait relativement bien. T'as pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Il y a du pétillant dedans. On sait comment Jess et moi, surtout Jess, aime le pétillant. 9 sur 10, honnêtement. Même 9,5. Moi, note finale, 9,5. J'ai vraiment aimé ce cocktail-là. Je trouve vraiment que ça ajoute une petite twist le fun pour l'Halloween. Puis, c'est ça. 9,5. Vous me direz en commentaire ou slidez dans les DMs pour me dire qu'est-ce que vous pensez du cocktail. Sur ce, on vous dit cheers et chin-chin et on va passer à l'histoire du jour. En tant que consommateur et consommatrice de True Crime, vous savez que parfois la réalité dépasse de loin l'imagination et les frontières entre la folie, la soif de protagonisme, l'autonégation et la dépendance émotionnelle sont si floues qu'elles en deviennent indiscernables. Comme on l'a mentionné la semaine passée, pour cet épisode thématique d'Halloween, on a décidé de plonger dans l'un des 13 cas du livre « Tueur de l'occulte » de Christian Page, qu'on remercie énormément parce que c'est vraiment grâce à son livre qu'on a pu avoir autant d'informations sur le cas, informations qui sont extrêmement difficiles à trouver sur Internet. Donc, merci beaucoup, Christian Page. Les sources pour le cas d'aujourd'hui sont Daily Mail, BBC, Le Time, Telegraph.co, Reddit, Mirror, SerialKillerCalendar.com, Welt.de, UPI.com, Shellytree.com, Splinter.org et bien sûr le livre Tueur de l'occulte de Christian Page. Aujourd'hui, je nous fais faire un voyage dans le temps direction le 9 juillet 2001. On est à Brockum en Allemagne. En passant, avant que je continue, si je massacre la prononciation de certains mots, c'est pas parce que je veux le faire, c'est parce que je suis canadienne, française, québécoise et je n'ai pas l'accent allemand et je ne sais pas parler allemand, absolument pas. Donc pardonnez-moi si jamais je massacre la prononciation et dites-moi-le et dites-moi comment le prononcer si je me trompe. Bref, Brockum, c'est une petite ville qui est située en Rhénanie du Nord de Westphalie dans la région de la Ruhr en Allemagne. Autrefois, Brockum, c'était vraiment un centre majeur de l'industrie minière et sidérurgique. Aujourd'hui, elle est reconnue pour ses universités, notamment l'Université de la Ruhr et son musée allemand de la mine, qui est l'un des plus grands musées miniers du monde, soit dit en passant. Brockum est aussi réputé pour son dynamisme culturel avec des théâtres, des festivals et le populaire spectacle musical Starlight Express. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'industrie minière de Brockum, loin de là. Ce jour-là, les Bartel appellent la police et leur disent que le matin même, ils ont reçu une lettre de leur fille Manuela et les parents sont inquiets. La jeune femme de 21 ans leur a écrit, ouvre la citation, « Je ne suis pas de ce monde. Je dois libérer mon âme de sa chair mortelle. » Fin la citation. Depuis qu'ils ont lu cette lettre, les Bartel tentent désespérément de joindre leur fille pendant des heures, mais sans succès. Selon eux, Manuela devient de plus en plus instable et semble s'être radicalisée dans les dernières années. Son look a beaucoup changé. Elle s'habille exclusivement de noir, son corps est couvert de tatouages et de piercings et elle gravite dans l'univers sombre de la contre-culture gothique. Évidemment, ce n'est pas parce que tu as des tatous, des piercings ou que tu t'habilles en noir qu'il y a forcément un problème avec toi, loin de là. Moi-même, je suis couverte de la tête aux pieds, jusqu'aux orteils même de tatou et chaque personne a son propre style. On a chacun notre façon d'exprimer qui on est et c'est l'une des plus belles choses, selon moi, de notre humanité, c'est nos différences. Vous allez vite comprendre l'inquiétude des parents de Manuela parce que le problème n'est pas le style qu'elle arbore, c'est vraiment tout ce qui vient avec ça. Les Bartel sont vraiment rongés d'inquiétude. Ils craignent que Manuela ait décidé d'en finir parce que les inquiétudes des Bartel sont loin d'être exagérées parce qu'à l'adolescence, leur fille avait déjà tenté de se suicider en prenant une overdose d'opiacés. Aujourd'hui, elle partage un appartement avec son mari, Daniel Ruda, qu'elle a épousé il y a tout juste un mois. Lui aussi est passionné par l'univers gothique et le black metal. Petite précision entre la différence du heavy metal et le black metal. Le heavy metal, c'est un genre énergique et mélodique qui est né dans les années 70, qui est axé sur des riffs puissants et des thèmes variés. En contraste, le black metal, c'est plus sombre, c'est plus brutal, avec des guitares distordues et des paroles extrêmes, arborant souvent des thèmes occultes ou anticléricaux. Le couple vit dans un petit logement 3,5 à Witten. Witten, c'est une petite ville qui est calme et verdoyante et contraste des grandes villes industrielles voisines. Accompagnés des parents Bartel, les policiers arrivent au logement de Manuela et Daniel Ruda afin de faire une vérification de sécurité. Dès qu'ils lèvent les yeux, une inscription frappante retient leur attention à une fenêtre du quatrième étage. « Where Satan lives », où Satan vit. Les mots sont peints en rouge et vous l'avez probablement deviné, c'est là où le couple des Ruda vit. Par sécurité, surtout après avoir vu le genre d'affiche qui est accrochée à la fenêtre, les policiers demandent aux Bartel de rester à l'extérieur. Je ne peux même pas imaginer ce que les policiers devaient ressentir à ce moment-là entre la lettre inquiétante reçue par les parents et l'inscription bizarre à la fenêtre. Honnêtement, l'anxiété, l'appréhension et la peur devaient être dans le tapis, comme on dit en bon québécois. Les agents montent lentement jusqu'au dernier étage, là où vivent les Ruda, et frappent à la porte, s'annoncent, mais rien. Si les policiers n'étaient pas rongés déjà par le stress et l'adrénaline, le silence pesant qui a suivi leur coup à la porte a certainement fait monter la tension d'un cran. Donc, ils ouvrent la porte et ils entrent dans l'univers des Ruda. Le sol est recouvert d'un tapis noir, tandis que les murs rouges et gris portent des peintures de symboles, des croix gammées, des croix inversées, des slogans sataniques et des pentagrammes. Je veux profiter du moment pour parler des fameux pentagrammes parce que c'est majoritairement associé au diable, mais le pentagramme, c'est vraiment un symbole complexe qui a plusieurs significations selon les contextes culturels et religieux. Dans la tradition Wiccan, le pentagramme, c'est souvent associé à la protection et à l'équilibre. Il représente les quatre éléments, soit la terre, air, feu, eau, plus l'esprit, symbolisant l'harmonie entre eux. Les Wiccans l'utilisent souvent dans des rituels et des pratiques magiques. Personnellement, c'est de cette façon-là que j'interprète et utilise les pentagrammes. Historiquement, il a aussi été utilisé dans diverses cultures, y compris en Grèce antique, où il était considéré comme un symbole de la santé et de protection. Finalement, dans certains contextes occultes, le pentagramme peut également être utilisé pour représenter des forces spirituelles ou magiques. Cependant, lorsqu'il est retourné avec une pointe vers le bas, il est souvent associé à des connotations plus sombres, plus négatives. De retour à l'appartement des Ruda, sorti tout droit d'un film d'horreur sadomasochiste, du plafond pendent des chaînes, des menottes et des colliers en cuir. En passant, petite précision, avant de continuer une fois de plus, je veux juste dire que aucun mal à être sadomaso, on juge absolument pas. L'important, c'est de respecter la personne avec qui vous avez des relations sexuelles, le consentement. That's it, that's all. La décoration, on continue vers la décoration de l'appartement des Ruda. Évidemment, elle est tout aussi lugubre avec des faux crânes humains et des pierres tombales qui, soit dit en passant, ne seraient pas fausses et ont probablement été volées dans les cimetières des alentours. Je sais pas pour vous, mais personnellement, manquer de respect aux morts et voler quelque chose dans un cimetière, je trouve que c'est la meilleure façon de se faire hanter par un fantôme en colère. Pas le genre de vendredi soir que je rechercherais, mettons. Dans la chambre principale, au pied du lit conjugal, un cercueil ouvert trône sur le sol, comme si le logement avait besoin d'être encore plus macabre qu'il ne l'est déjà. Mais le choc du décor se dissipe assez rapidement parce que dans le salon, une odeur nauséabonde envahit l'air et les policiers découvrent le corps d'un homme allongé sur le dos et baignant dans une mare de sang. Il y a du sang partout. Ça couvre les murs, les meubles et les tapis. L'attaque a été d'une violence inouïe. La victime a reçu des coups à la tête et a eu la gorge tranchée. Un scalpel est encore planté dans sa poitrine avec un pentagramme gravé dans sa chair. Près du corps, qui est en décomposition avancée, gisent un marteau, une machette et un cutter qui est visiblement les armes du crime. Qu'en est-il de Manuela, vous allez me demander? Bien, elle est introuvable et bien vite, l'appartement est envahi de policiers et d'experts en scène de crime. Les enquêteurs confirment assez rapidement que la victime au sol n'est pas Danielle Ruda. Le corps va être transféré au laboratoire du coroner et les agents vont poursuivre leur inspection. À proximité du corps, une feuille griffonnée de 15 noms attire leur attention, ainsi qu'un bol maculé de sang. Tout laisse croire qu'ils sont face à un rituel, voire un sacrifice humain. Plus l'enquête avance, plus il y a de questions qui gisent dans l'esprit des enquêteurs et ils sont bien déterminés à trouver les réponses. Bien vite, des photos de Daniel et Manuela Ruda sont diffusées à travers le pays et le couple devient rapidement les fugitifs les plus recherchés d'Allemagne. Pour comprendre ce qui se passe, on doit retourner là où tout a commencé, soit le 13 novembre 1978. Ce jour-là, Manuela Bartel est née, mais elle a aussi frôlé la mort parce que le cordon ombilical s'est enroulé autour de son cou. Les médecins ont vraiment craint le pire, mais grâce au travail exceptionnel du personnel médical, elle a survécu et n'a gardé aucune séquelle. Manuela, c'est la fille unique d'un couple de la classe moyenne à Wittens. Son père travaille pour les chemins de fer et sa mère est femme au foyer. Bien que stricte, ses parents sont attentionnés et plus tard, Manuela va dire, ouvre la citation, « Ils ne me laissaient pas faire tout ce que je voulais, mais ils étaient de bons parents. Ils ne m'ont jamais frappé et ont toujours été là pour moi. » Ferme la citation. Sa petite enfance est paisible, bien qu'elle soit une fillette timide et réservée, elle est passionnée par les animaux. Même si elle est enfant unique, la maison est bien remplie avec des oiseaux, des hamsters, un chien, un lapin et même un poney. Certains vont dire que c'est pour combler un manque puisqu'elle n'a pas de frères et de sœurs, mais être enfant unique n'implique pas nécessairement un manque. Beaucoup d'enfants uniques s'épanouissent pleinement, j'en connais plusieurs d'ailleurs, profitant de l'attention et des ressources de leurs parents sans ressentir l'absence de frères et sœurs. Ces gens-là, souvent, vont développer des amitiés solides et cultivent des passions variées, prouvant que la fratrie n'est pas une condition pour être heureux. C'est comme d'insinuer que les enfants qui vivent dans des grosses familles ont un manque, eux aussi, parce qu'ils doivent partager l'attention de leurs parents. Au bout du compte, je crois que l'important, c'est d'avoir des parents aimants, matures et conscients de la situation familiale dans laquelle ils sont afin d'apporter à leurs enfants tout l'amour et la stabilité dont ils ont besoin. Chaque famille est unique et ce qui compte vraiment, c'est le lien et le soutien qui existent entre les membres. Que l'on soit enfant unique ou issu d'une grande fratrie, c'est vraiment cette connexion-là, selon moi, qui fait toute la différence. De retour à Manuela, bien que son enfance soit calme, c'est à l'adolescence que tout se corse et que le chaos entre dans sa vie. La puberté, c'est souvent synonyme de crise d'identité et Manuela trouve la sienne dans le mouvement gothique allemand. Dans cette quête de soi, elle découvre une communauté qui valorise l'expression de ses émotions, même les plus sombres. En se plongeant dans la musique black metal et en adoptant un style qui lui est propre, Manuela se sent elle-même, enfin, même si ça l'éloigne de ses pairs et de ses camarades de classe. À cette époque-là, les gruftistes sont en plein essor et elle est attirée par la musique black metal et malheureusement par les drogues dures. C'est regrettable que le gothisme et le black metal soient souvent associés à des stéréotypes négatifs comme la colère ou la consommation de drogue. Et surtout à cette époque-là, il y avait souvent le mariage entre le gothisme et l'extrême droite. Tu sais, les mouvements gothiques, black metal, etc., bien que parfois c'est mal compris, ça représente en réalité une forme d'expression artistique et personnelle et riche, où la mélancolie et la recherche de soi peuvent coexister avec des valeurs de communauté et de créativité. Mais malheureusement, au cœur de sa crise d'adolescence, Manuela peine à percevoir les nuances qui existent dans le gothisme et le black metal. Elle ne voit que l'aspect sombre et tumultueux de ses mouvements ainsi que sa propre rage, ce qui l'empêche de comprendre toute la richesse et la diversité de l'expression artistique qui les accompagne. À 14 ans, elle fait une overdose d'héroïne et bien que ses parents l'emmènent à l'hôpital pour la sauver, elle se demande vraiment à quoi bon. C'est tellement intense de se trouver face à une overdose d'héroïne à cet âge-là. c'est tout à fait normal d'expérimenter des choses pendant l'adolescence. Je l'ai fait, je pense que pas mal tout le monde le fait ou presque. C'est une période de découverte de soi où l'on aspire à l'indépendance et où l'on cherche à vivre de nouvelles expériences. Généralement, ces explorations commencent avec des choses un peu plus communes comme le weed ou un peu d'alcool. Mais pour Manuela, cette quête de sensations fortes l'a conduite à des extrêmes avec une overdose d'héroïne à seulement 14 ans, ce qui est vraiment alarmant et je crois que ça en dit beaucoup sur sa personnalité. C'est peu dire que la vie de Manuela a déraillé depuis un petit bout et c'est à ce moment-là qu'elle entend pour la première fois l'appel du diable prêt à lui prendre son âme. À 16 ans, elle s'enfuit, se rend à Hanovre, la capitale de l'État fédéral de Basse-Saxe, puis, à l'été 1996, elle quitte l'Allemagne pour l'Angleterre, le cœur battant au rythme du punk et du gothique. Au milieu des marginaux qui fréquentent les clubs gothiques de Camden et de Slough, Manuela se sent enfin acceptée. Évidemment, pour financer son mode de vie comme n'importe qui, Manuela doit travailler. Un emploi de femme de chambre à Kyleakin sur l'île écossaise de Skye, qui est célèbre pour ses paysages à couper le souffle, ses montagnes majestueuses et ses côtes escarpées, lui est offert. Skye, c'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée et offre probablement à Manuela un endroit de répit. Elle apprécie le climat souvent gris et les ruines du château de Castelmaol, où elle se perd dans ses pensées nocturnes et s'imagine comme la reine gothique de ses rêves. C'est là où elle rencontre Tom Leppard, qui est un ancien militaire de 62 ans qui vit en ermite sur l'île. Tom Leppard, qui est connu sous le nom de l'homme léopard, est devenu célèbre après avoir couvert plus de 99% de son corps en tatouages, tatouages qui représentent des taches de léopard. Il va attirer l'attention des médias et du public en raison de son apparence unique et de son mode de vie atypique. Et fun fact, il a également été mentionné dans le livre Guinness des records pour son impressionnante couverture corporelle en tatouage. C'est sans surprise que Manuela le trouve fascinant et leur connexion l'aide à voir et à comprendre certains aspects de sa propre personnalité et de son identité. À la fin de l'été 1996, elle retourne à Londres où elle retrouve les communautés gothiques du nord de la ville. Jusqu'à présent, rien de bien alarmant. Je ne veux pas dire que c'est normal de se plonger dans la drogue dure ou de fuir son pays à 16 ans juste pour faire la fête, mais Manuela, avec sa personnalité intense et probablement des problèmes mentaux non diagnostiqués, était dans une quête d'identité et traversait une crise personnelle. Cela dit, la suite de son parcours devient carrément bizarre. Elle participe à des soirées où des donneurs acceptent de se laisser vampiriser, c'est-à-dire qu'ils se laissent prélever du sang. Quand je dis prélever du sang, c'est pas par des prises de sang. Je pense que vous l'avez compris. Bref, évidemment, c'est généralement par des personnes qui se définissent comme des vampires. En échange, ils reçoivent de l'argent ou des faveurs sexuelles. Peu à peu, Manuela s'incarne dans le rôle d'une vampire gothique qui embrasse le sadomasochiste. En 1997, elle revient dans sa ville natale de Witten et emménage chez ses parents. Parents qui, bien qu'ils soient heureux de la retrouver, sont assez choqués devant les transformations de leur fille. Manuela s'est plongée dans l'univers des tatouages et des piercings, et quand je dis piercing, je dis pas deux, trois piercings sur chaque oreille et un sur le nez. Elle en a partout. Elle affiche fièrement des sourcils rasés qu'elle redessine au crayon noir, tandis que ses canines ont été remplacées par des implants dentaires qui ressemblent à des crocs. Pendant la journée, elle travaille dans une boulangerie, mais la nuit, elle s'enfonce dans l'occultisme, dévorant les écrits d'Aleister Crowley, connu pour se proclamer la bête 666. Les excentricités de Manuela vont lui valoir une apparition dans le magazine Stern, où elle est présentée comme l'archétype de la mouvance gothique en pleine expansion en Allemagne. Elle commence à porter des lunettes de soleil, peu importe la météo, beau temps, mauvais temps, affirmant que la lumière du jour lui fait mal aux yeux. Elle prétend également entendre l'appel du diable et se définit comme sataniste, affirmant avoir un lien spirituel avec Allegra Byron, la fille illégitime du poète britannique Lord Byron. Contrairement à la version officielle, Manuela soutient que la jeune fille aurait été sacrifiée lors d'un rituel satanique. ses comportements deviennent de plus en plus déviants et ses parents tentent tant bien que mal de la ramener sur le droit chemin, mais Manuela finit par quitter le domicile familial pour emménager dans un petit appartement. Le 31 octobre 1999, clin d'œil, l'Halloween, elle se retrouve avec des amis à la fête païenne de Samhain, équivalent de l'Halloween. Lors d'un rituel, elle vend son âme à Satan en signant un pacte de son sang qu'elle brûle ensuite. En retour, elle espère que le diable lui enverra son prince charmant. En août 2000, le magazine Metal Hammer, qui est un magazine allemand dédié aux passionnés de heavy metal, a publié une annonce qui est assez intrigante pour le décrire gentiment dans sa section des petites annonces. On y lisait, ouvre la citation, « Vampire aux cheveux noirs cherche princesse des ténèbres, celle qui est tout le monde et tout, ayant fait ses adieux à la vie. » Ferme la citation. Assez intense. Cette annonce-là vient de nul autre que Daniel Ruda, un jeune homme de 24 ans, originaire de Bochum, et tout comme sa future épouse est issue d'une famille de la classe moyenne. Son père travaillait dans l'industrie chimique, tandis que sa mère restait à la maison pour s'occuper des enfants. Plus tard, Daniel a avoué qu'il ne s'est jamais senti proche de ses sœurs et qu'il ne ressentait aucune attirance pour qui que ce soit. En fait, il éprouvait une haine envers les gens et tout ce qui ressemblait à des démonstrations d'affection, que ce soit des caresses, des câlins, etc. Dès un jeune âge, Daniel a développé une fascination pour le sang, en particulier pour le goût ocre et métallique de l'hémoglobine. À 14 ans, selon les dires de Daniel, il a une vision d'un démon nommé Samiel, une expérience qui, selon lui, l'a entraîné dans les profondeurs les plus sombres de son âme. En plus, Daniel a des idoles assez discutables. Il est complètement passionné par des tueurs en série comme Richard Ramirez et Charles Manson. Pas le même genre de passionné qu'on est comme vous et moi à Crime et Cocktail. En quête d'idées déviantes, il a rejoint des mouvements d'extrême droite, des groupes skinheads, des groupes néo-nazis, mais aucun de ces cercles ne pouvait assouvir sa soif de macabre. Seul, il a continué à fantasmer sur des scènes de violence et de mort. Dans ses rêves, Daniel Ruda s'imaginait sous les traits d'un monstre ou d'un vampire se nourrissant du sang de ses victimes. C'est de cette façon qu'il s'est tourné vers des groupes sataniques, s'immergeant dans l'univers occulte et dans l'usage de drogues dures, ce qui l'a convaincu qu'il était un élu, un messager du diable. La Bible satanique d'Anton LaVey est rapidement devenue son livre de chevet. Il a commencé à se scarifier pour boire son propre sang et a demandé aux gens de l'appeler « Sundown », qui signifie « crépuscule ». À la même époque, il a intégré un groupe de black metal, les « Bloodsucking Freaks », sans vraiment y trouver sa voie. Encore une fois, comme sa future épouse, il a lui aussi fait un voyage à Londres pour rencontrer d'autres passionnés des quartiers de Slough et Camden. En août 2000, de retour à Bochum, toujours à la recherche de sa princesse des ténèbres, comme il le disait, celle qui va partager la même idéologie que lui, il a publié cette fameuse annonce dans Metal Hammer. Cette princesse des ténèbres, c'est nul autre que Manuela qui, quand elle lit cette annonce, est aussitôt captivée ce qui semble être une incantation qui l'appelle vers son prince. Il se donne rendez-vous dans un cimetière à Hockenhausen, au nord de Witten, et c'est le coup de foudre. Ils ne deviennent qu'un. Ensemble, ils fréquentent d'autres jeunes de Witten et de Bochum, côtoyant des satanistes, des vampires, dans les bars glauques de la ville, comme le Haze ou le Matrix. Ils se vampirisent mutuellement et sacrifient des animaux, surtout des chèvres et des poules, pour boire leur sang. On est bien loin de la petite Manuela enfant qui avait une passion pour les animaux. Ils ont même fait un voyage en Angleterre, renouant avec des jeunes gothiques du nord de Londres. Plus tard, ils vont avouer qu'ils ne ressentaient plus de plaisir à avoir des relations sexuelles conventionnelles. Leur échange intime tournait autour de la vampirisation et de la scarification, les plongeant d'un quotidien ordinaire à un monde peuplé de fantasmes morbides et sanglants. En mars 2001, Daniel dit avoir une nouvelle vision. Le démon Samuel lui aurait ordonné d'épouser son alter ego le 6 juin, en synchronisant cette union-là avec le 6 du 6, et de sceller leur pacte par un sacrifice humain suivi d'un engagement suicidaire le mois suivant. Ce rituel complétera la séance 666, le chiffre de la bête, et promet à Daniel et Manuela une place côte à côte dans les ténèbres éternelles de l'enfer. Le couple est maintenant une bombe à retardement. Le 6 juin 2001, Manuela Bartel et Daniel Ruda s'unissent. Généralement, on s'unit pour le meilleur et pour le pire, mais on s'entend que dans ce cas-ci, c'est surtout pour le pire. Seuls les témoins et les mariés sont présents pour l'occasion. Manuela est habillée d'un ensemble en vinyle noir issu de sa garde-robe sadomaso. Elle a peint des mèches de ses cheveux en rose. Son visage est parsemé de piercings et autour de son cou pend une croix inversée. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à un mariage traditionnel avec une robe blanche. Quant à Daniel, ses vêtements rappellent un habit traditionnel, mais il a rasé sa tête en mohawk et, sur son front, il a tracé des lignes au crayon noir qui évoquent des serpents. Comme Manuela, il affiche sa foi satanique avec un médaillon représentant un bouc cornu. Maintenant que la question de la cérémonie est réglée, une question reste. Qui sera le sacrifice humain des Ruda? Daniel a déjà un candidat en tête. Frank Hackard. Frank travaille dans le même magasin de pièces automobiles que Daniel à Hurton, à 35 km au nord-ouest de Wheaton. Frank, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, apprécié de tous et qui n'hésite pas à fredonner des airs des Beatles, qui est son groupe préféré. C'est assez troublant de penser que son groupe préféré chantait des chansons qui prônent la paix, sachant le tragique destin qui l'attendait. En plus, fâcheusement, Frank, c'est l'un des rares employés à n'avoir jamais critiqué Daniel ou ses choix vestimentaires qui étaient hors normes, si je peux dire ça comme ça. Au fil du temps, les deux hommes ont tissé des liens, malgré les réserves de leurs collègues. En réalité, Frank Hackard est probablement le seul ami de Daniel Ruda. C'est triste de savoir que la gentillesse de Frank va lui avoir coûté la vie. Au début du mois de juillet 2001, Daniel invite Frank Hackard à une petite fête qu'il dit organiser pour célébrer le premier mois de mariage avec Manuela. La soirée est prévue pour le vendredi 6 juillet, chez eux, et Frank accepte l'invitation. Le jour J, le couple passe l'après-midi à se préparer pour leur sacrifice, écrivant leurs mots d'adieu et leur dernière volonté. Imaginez-vous donc que Manuela se permet même une petite sieste dans son cercueil parce que, selon leurs croyances, ça serait leur dernier jour sur Terre. Avant l'aube, si tout se passe comme prévu, ils devraient renaître en enfer ou parmi les vampires. Vers 18h, ils se rendent chez Frank pour le ramener à Wheaton. Dès leur arrivée, Daniel et Manuela disent ressentir une étrange énergie dans leur appartement, comme si des forces obscures les habitaient. Dans le salon, Frank, bien que surpris par la décoration singulière de ses hôtes, ne s'en préoccupe pas trop. Après tout, il est habitué aux allures lugubres de son collègue. Ce qui le dérange, c'est l'absence d'autres invités. Plus le temps passe, plus son malaise grandit. Daniel et Manuela insistent sur le fait que les autres vont bientôt arriver, mais personne ne se présente. Après un moment, Daniel se lève et sort brièvement de la pièce. À son retour, il brandit un marteau et le fracasse sur la tête de Frank, qui lui tourne le dos. Par réflexe, Frank se redresse, complètement paniqué et confus, du sang jaillissant de sa blessure. Daniel, dans un état second, l'attaque à nouveau, le frappant une seconde et une troisième fois. Frank veut parler, mais il n'a pas le temps. Manuela, qui est assise en face de lui, aperçoit un scalpel sur le bord de la fenêtre. Selon ses dires, une voix intérieure lui murmure de poignarder Frank au cœur. Sans hésiter, elle se jette sur lui. Elle le poignarde encore et encore. Plus tard, le coroner va déterminer qu'elle l'a poignardé pas moins de 66 fois. C'est difficile de ne pas croire qu'elle a poignardé Frank Hackard 66 fois pour rendre un hommage morbide à Satan et ses croyances dépravées. Mais je n'ai trouvé aucune information qui confirmait ça. C'est simplement mon opinion. Pendant que Manuela s'acharne sur Frank, Daniel revient avec une machette et l'attaque également à la tête et au torse. Dites-vous que toute cette scène de chaos ne dure que 30 secondes. 30 petites secondes pour voler la vie d'une façon aussi horrible au seul humain qui t'a montré de la gentillesse. Frank s'effondre et c'est à ce moment-là que Manuela utilise le scalpel pour graver un pentagramme sur son plexus solaire. Encore une fois, comme pour honorer son soi-disant maître infernal. Pour les Ruda, une dernière étape les attend. Avec la lame, Daniel tranche la gorge de leur victime, recueillant son sang dans un bol qu'il s'apprête à boire à tour de rôle, le fameux bol maculé de sang retrouvé plus tôt dans l'épisode par les policiers. Pour ajouter à l'horreur de la situation, ils se retirent ensuite dans leur chambre pour avoir des relations sexuelles dans le cercueil de Manuela, à moins de 3 mètres du corps. Dites-vous que si quelqu'un est à 3 mètres de vous, vous pouvez facilement le toucher. Bref, tout en attendant le résultat de leur rituel, ils espèrent vivre la transformation promise, mais surprise, surprise, rien ne se produit. Aucune odeur de soufre, aucune mutation. Daniel et Manuela Ruda ne sont que deux meurtriers, rien de plus, rien de moins. Le couple commence à douter de leur projet, ils sont déçus et confus et hésitent à mettre fin à leur jour. Réalisant qu'ils ne peuvent plus rester dans cet appartement, ils entassent leur affaire dans la voiture de Daniel et prennent la route. À la brigade de police de Bokum, les enquêteurs s'activent pour reconstruire les événements tragiques survenus dans l'appartement de Wheaton. Les photos des Ruda passent en boucle à la télévision et grâce à l'ADN, ils identifient la victime. Frank Hackert, 33 ans. Les médias qualifient les Ruda de vampires et de satanistes, exploitant le sensationnalisme de l'affaire. Les fugitifs, quant à eux, sont anxieux, conscients qu'ils sont recherchés dans tout le pays. Ils se rendent à Hanov pour retirer de l'argent et faire vérifier leur voiture. Ensuite, à Iéna, Daniel entre dans un magasin pour acheter une tronçonneuse, justifiant son achat en disant qu'il pourra en avoir besoin si le diable les appelle de nouveau. Des employés vont le reconnaître et alerter les autorités. Un quart d'heure plus tard, un employé d'une station-service lui aussi les reconnaît. La police met en place des barrages routiers autour d'Iéna et les Ruda sont finalement arrêtés après une cavale de 6 jours. Il s'avère qu'ils avaient aussi fait un détour par Sonderhausen à 300 km de Wheaton, un endroit marqué par un meurtre rituel survenu 8 ans auparavant. En 1993, 3 adolescents avaient tué un camarade, Sandro Bayer, en l'étranglant et en abandonnant son corps dans un puits. Les meurtriers se disaient membres d'un groupe de black metal et se définissaient comme des satanistes et des néo-nazis. La mère de Sandro, Cornelia Bayer, avait critiqué avec des termes, disons, peu élogieux, la sous-culture gothique. Donc, la question se pose, est-ce que les Ruda se sont rendus à Sonderhausen pour s'en prendre à Cornelia Bayer? Ils ne vont jamais expliquer leur motivation ni la signification de la liste de noms retrouvés dans leur appartement, parce que le nom de la mère, Cornelia Bayer, en faisait partie. Quoi qu'il en soit, les vampires sont ramenés à Bokum et ils finissent par avouer leur crime. Le procès des vampires satanistes débute le 10 janvier 2002 à Bokum et préparez-vous parce que, oh my god, en anglais on dirait que c'est un shit show. En français, disons simplement que c'est un cirque. Pour la première journée d'audience, le juge a autorisé une centaine de journalistes à assister au tribunal venant des quatre coins du monde. Dans la salle, la foule est remplie de gens bien différents, des gothiques, des skinheads, des simples curieux, bref, tous désireux de découvrir les Ruda. Malheureusement, comme beaucoup de tueurs, Daniel et Manuela sont des héros aux yeux de certains. À leur entrée, Daniel et Manuela sont bien conscients que c'est le dernier acte de leur drame macabre et ils jouent leur rôle à la perfection. Vêtue de noir, Manuela se lève tôt pour peaufiner son apparence, comme elle va le faire tous les jours du procès. Elle s'est rasé les côtés de la tête, se dessinant une croix inversée et une cible avec du mascara. Ses longs ongles sont peints en rouge et en vert et elle porte un maquillage flamboyant. Daniel, quant à lui, affiche un T-shirt inspiré de Nosferatu, le classique du cinéma vampirique, avec des marques visibles d'auto-scarification sur ses lèvres. Sous les flashs des caméras, ils vont brandir le poing, l'index et l'auriculaire levés pour afficher le signe du diable. Daniel tire la langue et fait des gestes étranges, rappelant les fameuses manières de Charles Manson. Il va confier à son avocat, ouvre la citation, « Je veux être sous les projecteurs. Je veux que tout le monde connaisse mon nom. Pour y parvenir, j'ai dû tuer quelqu'un. » Fin de la citation. Les parents de Frank Hackert, qui sont présents dans la salle, ressentent l'absurdité d'un cirque autour d'eux. L'auditoire, quant à lui, Dieu merci, n'est pas amusé par les actes de clown des accusés. Pendant la lecture de l'acte d'accusation, Manuela et Daniel échangent des regards complices, font des doigts d'honneur, marmonnent des mots incompréhensibles et s'amusent à faire du bruit en raclant leurs ongles sur la table. Tout au long du procès, Manuela pourra même porter des lunettes de soleil, le juge ayant accepté cette demande pour sa sensibilité à la lumière. Son avocat explique qu'elle ne supporte pas les lumières vives parce que ça lui cause des migraines. Pourtant, l'ironie de la situation est flagrante. Ce qui peut réellement causer des maux de tête, c'est d'être frappé à la tête avec un marteau. Et en ce qui concerne la douleur, il y a également 66 coups de scalpel à considérer. Honnêtement, je ne sais pas comment je me sens vis-à-vis le choix du juge de laisser Manuela porter des lunettes pendant le procès. Clairement, elle trouve tout ça drôle, ce qui se passe autour d'elle. Elle mange de la gomme comme une vache. Elle manque de respect à tout le monde dans la salle, spécialement aux parents de la victime. Je trouve que de la laisser porter ses lunettes, c'est juste d'encourager ses comportements. Bref, j'aimerais ça savoir, vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, je n'hésite pas à me le dire, soit en commentaire ou dans les DMs. Pendant leur détention, une évaluation psychologique a révélé que Daniel et Manuela souffraient tous deux d'une forme de psychose au moment du meurtre, caractérisée par un trouble de la personnalité narcissique. Je serais intéressée d'en savoir plus sur ce qui a mené les psychiatres à conclure à une psychose quand le meurtre était aussi planifié et ce depuis aussi longtemps. Bref, peu importe l'issue du procès, ils ne risquent pas la prison à perpétuité. S'ils sont reconnus coupables, ils vont purger leur peine dans un institut psychiatrique de haute sécurité. Dès le début des audiences, la défense pose les bases de son argumentation. L'implication d'Eruda dans la mort de Frank Hackert n'est pas contestée. Ils ont avoué l'avoir tué, mais ils plaident non coupables en prétendant avoir agi sous les forces du diable, se décrivant comme des instruments de force supérieure. Manuela déclare, ouvre la citation, « Ce n'était pas un meurtre. Nous ne sommes pas des meurtriers. C'était un ordre de Satan. Et cela devait être fait. Nous voulions que la victime souffre. » Fin de la citation. Comme j'ai parlé plus tôt, c'est vraiment dommage le mariage entre les mouvements d'extrême droite et les groupes occultes, comme les adeptes du gothisme et les satanistes. Quand les Ruda parlent de leur passé de satanistes, ils évoquent des philosophies haineuses très éloignées de l'image fantasmée du satanisme populaire. Bref, pour en revenir au procès, le procureur a dit, et je cite, ouvre la citation, « Je n'ai jamais vu une telle illustration de cruauté et de dépravation. Ils étaient guidés uniquement par cette envie de tuer. Ils croyaient en Satan et le vénéraient. » Ferme la citation. À l'issue du procès, Manuela est condamnée à 13 ans de réclusion, tandis que Daniel écope de 15 ans à purger dans des institutions psychiatriques de haute sécurité. Au moment de la sentence, le juge déclare, ouvre la citation, « Ce cas n'a rien à voir avec le satanisme. C'est un crime commis par deux individus souffrant de graves problèmes psychologiques. Ce ne sont pas des monstres, mais des humains. Et il est de notre devoir d'essayer de les guérir. » Fin de la citation. J'en entends déjà beaucoup de vous qui vont absolument pas être d'accord avec les mots du juge, mais bon, face à cette déclaration-là, les accusés vont rester de glace. Daniel se contente de dire, ouvre la citation, « Je n'étais qu'un instrument entre les mains du diable. Si je tue quelqu'un avec ma voiture et qu'une partie de son cerveau reste sur le pare-choc, ce n'est pas la voiture qui ira en prison, mais le conducteur. Je n'ai rien à me reprocher. » Ferme la citation. Ce qui va suivre va vraiment vous fâcher. Au travers de tout ce cirque-là, moi, je fais juste penser aux parents de Frank Hackert. Tu sais, les journalistes qui étaient là, ils pensaient pas à ces parents-là. Eux, ils étaient là pour le sensationnalisme du fait que c'était des vampires satanistes, des supposés proclamés vampires satanistes qui ont tué quelqu'un pour faire un sacrifice. Au travers de tout ça, de toute l'attention, que ce soit médiatique ou juste l'attention tout court qui est dédiée à Manuela et Daniel Ruda, on a les parents de Frank Hackert qui sont là. Puis qui subissent tout ça. Ces parents-là qui ont déjà perdu leur enfant, qui sont déjà traumatisés d'une façon que personne ne devrait jamais être traumatisé. En plus de ça, la seule chose que Manuela va faire, c'est qu'elle va adresser un signe provocateur aux parents de Frank Hackert, le signe du diable, en levant son index et son auriculaire. J'ai aucun mot pour dire comment je me sens face à ça. Je trouve ça absolument horrifiant. les parents de Frank, qui, soit dit en passant, ont été présents à toutes les étapes du procès, estiment que la peine est trop clémente, moi aussi d'ailleurs, mais ils se rendent compte qu'ils doivent accepter la réalité. Herman Hackert, après le procès, confie, ouvre la station. Au début, je ne voulais même pas être là, mais maintenant, je suis content de les avoir regardés dans les yeux. Je comprends qu'il y a des gens fondamentalement mauvais. Pas des démons, mais des individus avec des esprits tordus. Fin de la citation. Depuis les événements, Manuela Bartel et Daniel Ruda ont retrouvé leur liberté. Peu de temps après leur incarcération, le couple a divorcé. Manuela a été placée dans une clinique à Lippstadt, au nord-est de Dortmund, où elle a montré un comportement exemplaire. Elle a été libérée en 2012, a changé de nom et son sort demeure inconnu. Daniel, quant à lui, a d'abord été interné dans un centre psychiatrique à Versen, près de Düsseldorf. Devant son refus de suivre une thérapie, il a été transféré à la prison de Bochum. En 2004, il a publié une monographie intitulée « Erreur code 211, le meurtre satanique de Witten. Quelle honte ». Dans cet ouvrage, il admet avoir menti durant le procès et avoir fabriqué des histoires d'appel du diable pour protéger Manuela, accusant celle-ci d'être la véritable responsable de la mort de Frank Hackert. Ses écrits, loin de le disculper, vont vraiment témoigner de ses troubles narcissiques. En 2011, il a demandé une première libération conditionnelle, mais celle-ci a été refusée. Ses déclarations dans les livres ont fortement influencé les décisions des magistrats. Une nouvelle demande a été présentée, mais les choses se sont compliquées. Une femme a contacté la police, affirmant que Daniel lui aurait demandé en 2012 de tuer Manuela. Il a nié les accusations, les qualifiant de délire d'une femme en quête de notoriété. L'enquête n'ayant pas permis de prouver ce prétendu contrat, les accusations de conspiration pour meurtre ont été abandonnées. Honnêtement, je me demande vraiment si c'est vrai. J'ai tendance à croire que oui, vu le personnage qui est Daniel Ruda. Mais en même temps, je me dis que ça a tellement été un cas populaire, médiatisé, puis c'est pas les deux seules personnes ayant des problèmes mentaux à travers le monde. Fait que je me dis que c'est aussi très, très possible que quelqu'un ait décidé de dire des menteries juste pour avoir un 5 minutes de gloire, entre guillemets. Bref. Finalement, Daniel Ruda a été libéré en septembre 2017 et a changé de nom pour devenir Daniel Wagner. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Ouh! On en a eu un bon aujourd'hui! Merci d'avoir été avec moi. Je suis contente de toujours avoir ma voix et qu'elle ne m'aille pas abandonnée au travers de l'épisode. Sinon, je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais fait. Généralement, le teaser, c'est pour la semaine prochaine, mais là, le teaser, c'est pour demain. En fait, je l'ai déjà fait au début de l'épisode. Encore une fois, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez eu l'horaire du mois. Vous savez que demain, il y a un épisode spécial Halloween berceuse dans le noir. Et je suis tellement contente de vous dire que c'est Jess qui va faire l'épisode berceuse dans le noir d'Halloween. Je suis contente de la retrouver au podcast. Bien que l'expérience d'avoir fait ça tout seul m'a grandement appris et que ça a été vraiment une expérience unique, je suis vraiment contente de retrouver ma partenaire, my partner in crime, à Crime et Cocktail. Et je suis sûre et certaine que vous, chers auditeurs, allez aussi être contents et contentes de rentendre sa voix au micro. Cela dit, le mois prochain à Crime et Cocktail, on va prendre une petite pause. On va faire quand même les épisodes spéciales Zodiac et sûrement un petit épisode bonus aussi. C'est pas qu'on prend une pause. Ben oui, bon, je dépasse, c'est ma grippe qui me fait déparler. Je me suis trop concentrée pendant le 1h30 de temps que j'ai record. On prend une pause, mais c'est parce que on a plein de surprises qui s'en viennent pour vous. Comme vous le savez, depuis le début de l'été, on travaille, tu sais, un revamp, on fait une reconstruction de Crime et Cocktail. On vous entend. Ce podcast-là, c'est aussi votre podcast. On aime ça avoir du feedback de vous. On aime ça avoir des commentaires pour vous donner qu'est-ce que vous voulez entendre. On travaille sur ça à chaque jour. On a travaillé sur ça tout l'été. Et on en est venu à une certaine conclusion de ce qu'on voulait pour le futur de Crime et Cocktail. Et on va finaliser les préparatifs pour le lancement officiel le 4 décembre. Je ne veux pas vous en dire plus pour l'instant parce que c'est quelque chose que je veux faire avec Jess, mais soyez sans crainte Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent pour la fin de l'année et pour l'année 2025 à CEC. Je suis tellement contente de tout le parcours qu'on a fait. Et aussi, je vais prendre ce moment pour souligner le fait que le 26 octobre, ça a été l'anniversaire de Crime et Cocktails. Ça fait 2 ans qu'on a commencé le podcast. On a tellement du chemin parcouru. Je me remets à nos premiers débuts assis dans ma chambre. Les deux avec un micro pas pareil, branché sur mon ordinateur en sachant aucunement ce qu'on faisait, en ayant le pire son de l'univers. La seule affaire qu'on savait, c'est qu'on voulait faire ça, c'est qu'on espérait un jour pouvoir venir en aide aux personnes victimes de crimes. Et encore à ce jour, on espère faire ça. Et là, on est là 2 ans plus tard. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. On a une belle surprise qui s'en vient en novembre aussi pour vous. Je vous allais être super content. Je peux pas vous en dire plus, mais je peux vous dire le 4 décembre 2024, mettez ça à votre calendrier. Et si vous voulez suivre tout ce qui va se passer et en savoir un petit peu plus à l'avance ou avoir plus de détails, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On va vous en dire plus sous peu. Et comme j'ai dit, on a plein de belles petites surprises qui s'en viennent pour vous au mois de novembre. Encore une fois, je tiens à remercier Christian Page et son livre « Tueur de l'occulte » pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment un livre qui est fantastique et d'ailleurs qui est disponible sur Audible. Audible qui est une application qu'on adore et qui rend vraiment nos trajets d'auto pas mal plus intéressants, surtout quand on a beaucoup d'heures de trajet à faire. Donc on vous invite vraiment soit à vous procurer le tome ou à l'écouter sur Audible, il est disponible sur l'application. Et pour une dernière fois, je veux vous remercier d'avoir été patient avec moi, avec ma grippe aujourd'hui. Et surtout, merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure de faire le podcast seule. Je suis vraiment choyée d'avoir des auditeurs comme vous. Vous êtes tellement incroyables. Merci de me donner une place pour faire ça. Eh bien, vous allez retrouver Jess demain pour un épisode de Berceuse dans le noir. Restez à l'écoute. Ça promet d'être captivant demain à Crime et Cocktail, édition Berceuse dans le noir. En attendant, portez un cheers à ceux qui cherchent la vérité et un chin-chin pour chaque mystère qui reste à élucider.